Bon, pour tous ceux qui aimeraient peut-être un jour écrire, devenir écrivain, c'est un long parcours, c'est vrai. Les premières choses qu'il faut faire, c'est lire, et puis écrire. Je crois que tous ceux qui sont devenus auteurs ont d'abord été des lecteurs. Et je ne vois pas comment on pourrait prétendre écrire des histoires sans jamais avoir envie de lire celles que les autres écrivent. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? Et comment on s'y prend pour arriver à raconter une bonne histoire ? Je vais essayer de vous donner quelques techniques, quelques ficelles. Vous pourrez peut-être les utiliser dans vos rédactions. L'air de rien, on peut dire qu'une histoire, ça a un début, ça a une fin et ça a aussi un milieu. C'est-à-dire que lorsque vous commencez l'histoire, vous savez aussi à peu près comment elle va se terminer. C'est toujours, au départ, une question d'ordre. Lorsque vous commencez votre histoire, le monde est bien, il est normal, tout est donné. Et il y a un élément de désordre qui va troubler cette tranquillité. Alors, bon, évidemment, si c'est du policier, ça peut être un meurtre, un vol. Si c'est une histoire de science-fiction, vous pourrez avoir une soucoupe volante qui débarque. Vous aurez quelque chose qui se passe dans l'histoire et qui fait que l'ordre est bouleversé. Et à partir de là, vous aurez un personnage qui va en subir les conséquences. Vous aurez votre héros, votre héroïne, et qui va essayer de revenir à l'état initial, restaurer l'ordre. Restaurer l'ordre, ça peut être je suis ruiné, je vais essayer de me refaire, je vais essayer de trouver le coupable, le voleur, et de récupérer mes affaires, je vais essayer de pouvoir rentrer à la maison si je me retrouve dans une soucoupe volante. Bon, il faut pouvoir revenir au début. Alors, la fin, ce n'est pas forcément le retour à l'ordre qu'il y avait au départ. C'est un autre ordre. Ça peut mal finir, il y a des histoires qui finissent mal ou de manière un peu triste. Ou alors, c'est un ordre différent dans la mesure où, pendant sa quête, le personnage a rencontré l'âme-sœur et, bon, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Au début, il était célibataire, maintenant ils sont mariés, donc on a un autre ordre. Voilà. Donc, en gros, votre histoire, elle doit se passer comme ça. Et il faut que les éléments du départ, on puisse les retrouver quand même à la fin, que ce soit expliqué. Si tout d'un coup, on part en milieu de récit, dans une autre histoire, une autre quête, sans jamais conclure ce qui a été dit au début, ben, ça ne fonctionnera pas. On sentira qu'il y a quelque chose qui manque dans votre histoire. Ensuite, et ça c'est valable pour les écrivains de science-fiction surtout, mais ceux de fantastique aussi, il faut arriver à être crédible, plausible. Lorsqu'on écrit de la science-fiction, on raconte des choses extraordinaires, étonnantes, à laquelle vous ne pouvez pas croire, à laquelle vous ne croyez pas, finalement, sauf pendant le temps où vous lisez cette histoire, ou pendant le temps où vous regardez un film. C'est le pacte que l'on peut avoir avec le lecteur, c'est le contrat de lecture. Je vous mens, mais vous êtes d'accord pour que je vous mente, à condition que je vous mente bien. Alors, quand vous écrivez une histoire, vous avez... Même on vous demande une journée de votre vie en rédaction, bon ben vous avez le droit de raconter quelque chose qui est imaginaire et qui peut un petit peu rassembler ce que vous avez envie de dire. Mais vous êtes obligé de mentir bien. Un bon écrivain est un bon menteur. À mon avis, je crois que tout le monde doit savoir écrire à ce moment-là. Hein, on est tous bons menteurs. Peut-être que vous l'expérimentez, vous n'avez pas encore toutes les stratégies, mais essayez de voir à partir de là. Vous arrivez en retard à la maison et puis on vous demande où vous étiez. Si vous dites, bon ben il y a un extraterrestre qui m'a sauté dessus, il m'a embarqué, j'ai dû me débattre, et puis finalement après l'avoir assommé, j'ai pu rentrer à la maison, c'est deux baffes assurées parce que évidemment, on voit bien que vous vous moquez de la personne à qui vous parlez. Si vous dites, ben, j'étais chez le copain, il y a un devoir, on n'a pas très bien compris, on a travaillé ensemble, en fait vous avez joué à la Wii ou à n'importe quoi, et que bon, les parents peuvent peut-être vérifier en téléphonant aux autres parents, eh bien à ce moment-là, vous êtes plus ou moins crédible, tant qu'il n'y a pas la question dangereuse posée, est-ce qu'ils ont travaillé, ben, finalement tout se passera bien. Donc vous voyez que votre mensonge, il est au plus près de la vérité. Et plus vous collez à la vérité, plus votre mensonge est crédible. Et donc un auteur de science-fiction qui vous racontera des choses complètement imaginaires va essayer d'être crédible en mettant beaucoup de vérité dans son récit. Et donc, pour expliquer, je ne sais pas, un voyage dans l'espace très lointain, alors que normalement, vous savez, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On va se servir de deux ou trois théories scientifiques non encore validées qui nous permettra de faire croire pendant le temps du récit qu'il est possible de voyager très très loin, plus vite que la lumière, ou de revenir peut-être en arrière dans le temps. Hein. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être crédible, et pour être crédible, il faut savoir bien mentir. Alors évidemment, comment s'y prendre ? Lorsque vous faites de la science-fiction, ça vous demande beaucoup de documentation. Vous ne pouvez pas raconter des histoires sur ce que vous ne connaissez pas. Et au début, quand on a envie de raconter une histoire, il y en a un qui m'avait donné ce conseil, un grand monsieur, c'était André Franquin. Vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais si je vous dis que c'est un dessinateur de BD, aujourd'hui décédé, mais un des plus grands de la BD franco-belge, qui a dessiné Spirou, Le Marsupilami, Gaston Lagaffe. André Franquin m'avait conseillé de parler de choses que je connais, c'est-à-dire de moi, de ma famille, de ce qu'il y a dans mon entourage. C'est à vous de chercher ce qu'il y a dans votre entourage, la petite histoire que vous pourriez développer. Vous parlez de ce que vous connaissez, au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Même lorsque vous avez envie de raconter une histoire policière, on n'est pas obligé de mettre un flic, un vrai policier là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que l'on peut voir à ce moment-là, c'est que vous ne connaissez pas la vie d'un commissariat, vous ne savez pas comment ça se passe exactement, est-ce que vous connaissez toutes les procédures judiciaires, est-ce qu'elles sont respectées ? Il y a tout d'un coup, on se rend compte, tout un monde que l'on ignore et que l'on ne connaît pas. Alors soit vous restez très flou, on voit la police arriver à la fin et on ne dit pas ce qui se passe. Quand vous restez flou, vous êtes sûr de ne pas commettre d'erreur. Si vous entrez dans les détails, évidemment, ça veut dire que vous êtes documenté. Il vaut mieux en savoir beaucoup plus que ce que vous mettez dans votre récit. Parce que si vous mettez ce que vous avez lu dans une encyclopédie sans l'avoir encore bien compris et que vous le balancez dans votre histoire, ça va se sentir, ça va se voir. Vous connaissez mal la chose et donc on verra tout de suite à deux ou trois petits détails que tout est inventé. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent peut-être bien le milieu hospitalier, il y en a qui connaissent mieux le milieu juridique, parce qu'il y a peut-être des parents qui sont avocats, d'autres qui connaissent mieux l'aérospatial. Prenez même un chauffeur de bus, il a une vie, il faut essayer de raconter sa manière de faire, sa manière de travailler, et à partir de là, vous pouvez raconter une histoire. Alors, évidemment, vous allez vous dire, mais je ne sais jamais quoi raconter. Moi, je n'ai pas d'idée. C'est faux. Vous avez tous des idées. Vous vous projetez tous des films dans la tête. On peut donner un exemple. Vous attendez peut-être à avoir un rendez-vous galant. Et puis, avant même de se retrouver, vous êtes en train de vous dire « ça va se passer comme ça, je lui dirai ça, il va y avoir telle réponse. » Et à ce moment-là, clac, clac, clac. Bon, vous imaginez plein de choses. Ça ne se passe jamais comme ça. Loupé. Il y a toujours un contre-temps. Tiens, il y a le copain qu'on croise. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Bon, allez, oui, c'est ça. Oui, plus tard. Il se passera quelque chose. La personne est grippée. Très bien. voilà. Mais vous êtes fait des films dans la tête. Vous avez imaginé un certain nombre de situations. Et c'est à partir de là que vous tenez un petit fil qui est le début de l'histoire, le début d'une intrigue, et que vous allez tirer ce fil, le tirer pour voir jusqu'où ça peut vous entraîner. Lorsque vous voyez peut-être, quelqu'un qui est passé à vélo et qui, en faisant bonjour à quelqu'un, a failli entrer dans un arbre et au dernier moment a pu l'éviter, sachant que c'était peut-être lui qui avait un rendez-vous qui devait être à l'heure parce que sinon il aurait de gros problèmes, on est en train de se dire, tu as vu ce qui aurait pu se passer s'il était tombé ? Alors évidemment, on peut tout de suite imaginer une cascade de conséquences, à savoir que il s'est fait très mal en tombant, il s'est retrouvé à l'hôpital, son travail ne sera pas rendu à temps, son rendez-vous, tout ce qu'il devait faire, c'est foutu, ça va lui causer pas mal de problèmes par la suite. Vous avez toute une chaîne de conséquences qui font que votre histoire est en train de prendre son envol. Donc, à partir de ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez toujours trouver une petite histoire. Même, vous pouvez faire cet exercice si vous voulez, en essayant de raconter ce que vous avez vu de particulier dans une journée. Alors, je peux donner un exemple qui est juste tiré d'un roman que j'avais adoré, qui s'appelle « L'échange » de Alain Brenner. C'est une histoire de personne qui change de vie avec son double dans un univers parallèle. L'histoire est simplement un acteur de pièce de théâtre qui va jouer la dernière représentation. Et au moment où il s'engouffre dans les coulisses du théâtre, quelqu'un qui était dans la file d'attente pour pouvoir acheter son billet l'a reconnu, lui a couru après et lui a demandé un autographe. Lui a réfléchi un moment, ne sachant pas quoi mettre. Il a demandé son prénom, Barbara. Il a signé à Barbara amicalement. Et elle a dit merci beaucoup. Puis lui, il a dit de rien. Les acteurs ont horreur de jouer la dernière pièce devant des fauteuils vides. Et il est parti. Voilà, c'est juste une petite scène. Vous pouvez raconter que vous avez vu, je ne sais pas, un chat essayer d'attraper un pigeon et en voulant lui sauter dessus, il est tombé dans l'eau. Bon, une petite scène de rien du tout. C'est ce que vous racontez le soir à la maison en disant voilà ce que vous avez vu. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi vous avez raconté cette histoire. Généralement, ça vous a étonné, ça vous a surpris, ça vous a choqué, ça vous a inspiré quelques réflexions sur la société, sur le monde, sur comment les gens se comportent. En tout cas, vous n'avez pas raconté cette histoire pour rien. Hein, pourquoi vous racontez cette histoire au bord rien, pour faire du bruit, on va dire il y a quelque chose de bizarre là chez la personne. Et la raison pour laquelle vous avez raconté cette histoire, c'est le début d'une réflexion. Et une fois que vous avez réalisé pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire-là et pas une autre, vous pouvez mettre dans votre récit les éléments qui vont vous permettre de l'enrichir. Alors évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire que vous mettrez. J'ai voulu écrire cette histoire parce que je voulais absolument dire ce que je pensais à propos de telle ou telle situation. Non, 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 vous allez le mettre à des petits endroits bien précis. Alors cette petite anecdote qui au départ s'écrivait en deux lignes, d'abord vous l'enrichissez, vous la gonflez, donc cette histoire d'homme qui rentre dans le théâtre, eh bien on le voit aller vers les coulisses, il y a un panneau qui dit « la dernière représentation est ce soir ». Et quand il voit la queue, il se dit, bon sang, les gens auraient pu venir avant, il n'y avait plus personne, c'est pour ça qu'on arrête la représentation. Et à ce moment-là, tout le monde se précipite. Et toujours, par exemple, lorsqu'un auteur est mort, ou un acteur, que l'on va tout d'un coup lire ses livres ou qu'on va regarder ses films. On ne l'a pas fait de son vivant. Et puis à ce moment-là, donc la personne qui vient, je ne sais pas quoi écrire, j'ai toujours l'impression que lorsque je vais mettre une dédicace, il y a un acteur plus connu que moi qui va dire « Excusez-moi mon vieux, mais c'est à moi qu'elle parle, c'est pas à vous ». D'autant plus que j'ai pas d'idée là sur le champ, donc Barbara, à Barbara amicalement, elle est contente. Maintenant je vous raconte l'histoire. Je vous en ai un peu parlé, c'est l'histoire d'échange d'un univers parallèle par rapport à un autre. Il y a un homme qui a toujours voulu être acteur. Mais voilà, il s'est marié, il fallait gagner sa vie, il y a un enfant qui arrive aussi, donc il travaille comme employé dans une banque, il s'y ennuie, et puis c'est fini pour sa carrière d'acteur. Et de temps en temps, il a des flashs où il se voit jouer sur scène à Broadway, tourner dans des téléfilms et avoir énormément de succès. Et puis, il y a un autre par chapitre interposé, c'est Richard Cochrane d'un côté et de l'autre côté c'est Rick Cochrane, qui est un acteur connu où tout marche bien, mais qui a tellement eu une carrière qui l'oblige à voyager à droite et à gauche, n'a jamais eu le temps de trouver l'âme sœur, ne s'est pas marié, n'a pas d'enfant, et il aimerait bien de temps en temps avoir une vie un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille, rentrer chez soi tranquillement à la maison, discuter avec sa fille, voilà. Et il a justement des flashs de vie tranquille comme ça. Et finalement, les deux univers parallèles coïncident, et les deux personnes se rencontrent, chacun ayant envie de vivre la vie de l'autre, se raconte son histoire, et prendra la place de l'autre. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que l'un qui n'a pas été acteur sera un acteur? Et est-ce que l'autre, qui ne sait pas peut-être vivre au quotidien, pourra le faire alors qu'il a l'habitude d'être sous les feux des projecteurs? Ce que voulait raconter l'auteur à partir de là, c'est que notre destin est peut-être écrit. Les choses, est-ce qu'elles sont écrites à l'avance? Non, on peut éventuellement les modifier, à condition d'être prêt, mais souvent la vie nous emporte et on n'a pas le temps de réfléchir à notre vie et à bien la paramétrer. Dans cette histoire-là, l'acteur avait regretté de ne pas pouvoir être allé à l'enterrement de sa mère parce qu'il était en tournage ailleurs. Et là, dans cet univers parallèle, une fois de plus, il s'est dit « je vais y aller », mais là, sa mère est déjà morte. Trop tard, une fois de plus, c'est loupé. Quand on reprend cette histoire-là de l'homme qui s'engouffre dans les coulisses du théâtre, on a exactement tout le projet de l'auteur qui est là. Lorsqu'il dit « je vois toute cette file », c'était avant qu'il fallait venir, sachant bien que prolonger de un jour ou deux n'aurait pas du tout changé la fréquentation de cette pièce de théâtre, il y a déjà une petite question qui est faite sur « bon, on ne pouvait rien y changer ». Et lorsqu'il dit « je ne sais pas quoi mettre à cette dame qui me demande un autographe et je vais lui dire « ben, Barbara, amicalement » et elle va dire « merci beaucoup », elle avait l'air très heureuse et lui dit « de rien, je suis content de vous voir parce que les acteurs ont horreur de jouer leur dernière représentation devant des fauteuils vides ». Et au moment où elle est partie, il se dit « c'est ça que j'aurais dû écrire comme dédicace. Merci d'être là pour la dernière représentation, au lieu de mettre simplement à Barbara amicalement. » Et là, il se dit « au théâtre, au cinéma, tout est toujours écrit, tout est toujours paramétré à l'avance. Dans la vie, eh bien, ça ne se passe pas comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir. Dans la vie, eh bien, on est en train d'écrire son histoire en même temps qu'on la vit, et on a parfois des petits temps de retard » qui fait qu'on a pas mal de loupés avec les autres, on a des regrets, on a des réactions qui ne sont pas appropriées. Alors vous voyez comme à partir d'un tout petit événement, à partir du moment où vous essayez de réfléchir à la raison pour laquelle vous voulez raconter cette histoire, vous êtes capable de raconter une grande et belle histoire, vous êtes capable de l'enrichir et tout d'un coup elle devient intéressante. Voilà, donc ça fait partie du travail de l'auteur, c'est de dire « bon ben ça, j'ai une idée qui est géniale », mais ensuite, il va falloir la travailler pour essayer de l'enrichir. D'autant plus que, méfiez-vous, la première idée que vous avez, ce n'est pas une histoire. On le croit, mais lorsque vous avez une idée, c'est peut-être quelque chose qui est fascinant, mais vous ne savez pas comment la raconter. Si vous avez envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui pourrait vivre, qui serait immortel, allez, et de dire, vous vous rendez compte, tout ce qu'il pourrait faire, il pourrait devenir tout dans sa vie, et puis tout d'un coup, on se rendrait compte qu'en même temps, il vieillit quand même. Et ça va faire de sacrés problèmes. Ouais, ça va être génial, on va voir un vieillard à 150 ans, et il a encore 3000 ans à vivre, dans quel état il sera plus tard, il perd la boule, ça pourrait être intéressant. Ça va, c'est une idée qui peut être séduisante à raconter, mais c'est quoi l'histoire? Qui est cette personne immortelle? Tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il faut lui inventer un passé, une vie. Il faut dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie en général. Il faut lui trouver des amis, un entourage, un métier. On est à quelle période, à quelle époque? Vous voulez raconter une histoire qui se passe dans un vaisseau spatial en l'an 2500? Très bien. Comment on s'habille à cette époque-là? Comment on parle? Parce que le langage aura certainement changé. Toutes les habitudes auront changé. Est-ce que dans une fusée du 25e siècle, on prendra encore un petit déjeuner café croissant? Il y a 200 ans, on n'en consommait pas. Et là, vous vous rendez compte que lorsque vous avez votre idée, vous devez la transformer en histoire. Et une fois que vous l'avez transformée en histoire, vous devez en plus réfléchir à tout ce qu'il y a autour de l'histoire pour pouvoir donner des petits détails qui vont avec. Parce que si vous avez une invention qui est vraiment extraordinaire, qu'on ne pourra réaliser que dans 200 ans, il faudra bien se dire que dans deux siècles, la société elle aura quand même évolué et qu'on ne vivra plus tout à fait de la même manière. Donc il faut y réfléchir à ça. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de bâtir votre intrigue. Alors comment vous faites? Ben, vous faites un plan, hein. Vaut mieux. D'autant plus lorsqu'on est devenu écrivain professionnel, au début on écrit des histoires comme ça, on ne sait pas trop comment on va la développer, on sait peut-être comment elle va se terminer. Généralement, vous connaissez la chute de votre histoire, mais vous ne savez pas comment vous allez la développer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez être amené à écrire 50 pages et à vous arrêter en disant « bon, ça y est, je suis bloqué ». Donc, autant faire un plan. D'abord, vous rendrez compte qu'il va falloir avoir une progression dans l'histoire. S'il y a un mystère, il faut l'élucider. Commencez par maintenir toujours un suspense en laissant toujours une part d'inexpliqué, mais en montrant ce qui est inexpliqué. Commencez aussi par des événements dramatiques, mystérieux, si vous avez une histoire fantastique par exemple, mais qui vous permettent d'aller toujours un petit peu plus loin dans le suspense ou dans, disons, l'action, la dramatisation de l'action. Si dès le départ vous avez le genre de grand combat final dès le premier chapitre, la fois d'après vous devrez aller encore plus loin et encore plus haut. Vous n'y arriverez pas. Donc, on commence avec des petits événements et petit à petit, on monte en puissance, comme on dit, hein, jusqu'au point culminant de l'histoire où tous les fils de votre intrigue devraient, ça serait le mieux, ça serait miraculeux, devraient se dénouer en même temps. Alors, lorsque tous les fils de l'intrigue se dénouent en même temps, là, vous avez un beau final, une belle conclusion. Pensez aussi qu'à la fin, il faut savoir un petit peu redescendre. Lorsque vous avez, je ne sais pas, une musique qui est très forte, bon, à la fin, il y a encore deux, trois petites notes où ça s'arrête. Lorsque vous voyez un film d'action et qu'on a le combat final, mettons, contre le méchant, avec beaucoup d'effets pyrotechniques, à la fin, vous aurez deux, trois petites scènes avec la famille qui est retrouvée. Ça, c'est typique des scénarios d'auteurs américains. La famille est toujours réconciliée à la fin de l'histoire ou se recompose. Mais en tout cas, on a toujours deux, trois petites scènes qui permettent d'évacuer un petit peu la tension avant de sortir de la salle ou avant de finir le livre. Donc voilà, ça, ce sont des petites choses que vous devez avoir à l'esprit. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez déjà beaucoup de fils dans la tête que vous devez tirer, c'est-à-dire l'histoire de votre personnage, l'intrigue qui doit arriver à la fin de l'histoire en montant toujours en puissance, et puis par moments, il y a toujours des plages de calme. L'histoire se passera un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois-ci? C'est l'occasion d'amener votre intrigue secondaire. Une intrigue secondaire, c'est toujours intéressant, parce qu'à partir de là, vous pouvez avoir un autre personnage qui va remettre du suspense pendant qu'il ne se passe rien de l'autre côté. Et que peut-être vous aurez un deuxième personnage qui pourra sauver la mise à votre héros au dernier moment et qui vient de votre intrigue secondaire. C'est lui qui vous permettra peut-être de finir l'histoire. Quand vous jouez avec comme ça ces deux histoires, alors il faut que l'intrigue soit vraiment secondaire et qu'elle ne prenne pas le pas sur la première. Vous avez votre histoire, il faut la respecter, et après, dessous, vous avez de toutes petites histoires. Bon, ça sera le héros enquête sur un grand mystère, et puis il y a une petite affaire, une intrigue amoureuse, si l'on veut, en second plan, ou bien une dispute avec les parents, et à la fin, on pourra se réconcilier, ou bien il n'est jamais cru, et avec la résolution de cette grande enquête, cette fois-ci, on verra que ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ce n'est pas du flan, il n'est pas un menteur. Vous voyez, vous avez toujours une deuxième petite intrigue qui vous permettra de nourrir encore la vôtre. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ensuite, vous avez avec ça donc des personnages. Votre personnage, il faut qu'il existe. Même votre méchant. Alors, les méchants ne sont pas entièrement méchants. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire du mal, rien que pour faire du mal, qui ricane dans son coin et qui essaye de trouver toujours un sale coup à faire. S'il y a un méchant dans une histoire, c'est qu'il veut quelque chose. Il a un intérêt. Il a un intérêt à ne pas se comporter correctement. Il veut se venger de quelqu'un, il va peut-être vouloir l'assassiner. Il veut peut-être un objet, et puisqu'il ne peut pas l'avoir, il va le voler. Il a un intérêt à faire ce qu'il fait. Et donc, il a des raisons, et c'est peut-être des bonnes raisons de son point de vue. Ce qui fait que votre méchant, vous allez devoir quand même lui donner un certain caractère, et il faut qu'il soit lui aussi crédible. Vous le voyez très vite lorsque vous imaginez une conversation. Vous pensez, par exemple, que la Terre... mettons une histoire sur le climat, il y en a qui vont dire c'est la faute à l'homme si le climat se dérègle, d'autres pensent le contraire. Vous n'allez pas pouvoir donner des arguments en disant mais voici toutes les preuves du dérèglement climatique par la faute de l'homme, alors qu'en face, personne n'a d'arguments à donner. Vous êtes obligé de trouver aussi des arguments qui disent « Ah, mais vous savez qu'il y a déjà eu des périodes de sécheresse par le passé, avant que l'homme soit là, qu'il y a eu des périodes glaciaires, donc tout ceci ne prouve rien, vous n'avez pas assez de connaissances pour déterminer si oui ou non l'homme est responsable. » Vous êtes obligé de trouver des arguments de la partie qui ne vous intéresse pas, de la partie qui ne vous représente pas, pour pouvoir avoir un échange, un dialogue qui soit crédible. Donc il faut toujours injecter un petit peu de vous dans chacun de vos personnages. Lorsque les gens demandent parfois à un auteur où vous êtes dans l'histoire, quel personnage êtes-vous ? On est tous les personnages à la fois. Ils ne peuvent pas exister si on n'y met pas un petit peu de soi. Alors évidemment, même chez les salofinis, eh bien, il va falloir peut-être se rappeler la fois où on n'a pas été toujours honnête avec une personne. Et ce comportement, on va un petit peu le gonfler pour en faire quelque chose de vraiment horrible. Mais ce sont des choses qui sont aussi à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que vous pouvez enrichir un personnage. Alors, il va falloir lui trouver un nom qui correspond quand même à ce qu'il est. Il va falloir lui trouver un métier, une activité. Et vous rendez bien compte à partir de là que votre personnage, il commence à vivre sa propre vie. Et donc, vous imaginez donc comment il vit, et à partir du moment où vous imaginez son passé, sa biographie, ce que vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre histoire, votre personnage aura une réelle épaisseur. Lorsque vous écrivez une histoire aussi, imaginez à qui vous la racontez. Vous n'écrivez pas de la même manière si vous connaissez votre interlocuteur. Vous racontez une histoire à votre copain, votre copine, ben, vous aurez une manière de parler qui ne sera pas la manière que vous avez de vous adresser à, je sais pas, à un professeur, aux parents ou à un directeur dans une administration quelconque. Vous n'avez pas le même langage. Alors vous pouvez avoir un langage très relâché avec vos camarades et vous pouvez voir qu'il y a certaines histoires qui sont racontées comme ça. Et que bon, ben, s'il y a des mots grossiers, la personne les prononce, il va bien falloir les noter aussi. Si vous vous adressez, je ne sais pas, à un oncle que vous aimez beaucoup, vous direz, vous raconterez les choses autrement. Vous direz, tu te souviens, il y a ceci, il y a cela. Vous donnerez vos impressions. Vous délivrerez vos impressions d'une autre manière. Donc, essayez de vous imaginer un interlocuteur. Et à ce moment-là, vous verrez que votre écriture se met à changer. Et alors, lorsque vous voulez donner un caractère à un personnage, ça c'est quelque chose de très important. Il va falloir qu'on puisse le croire. Alors quand vous dites, vous commencez une histoire, que le personnage sera, mettons, quelqu'un qui se fâche très facilement, quand on entre dans le bureau, vous n'allez pas mettre « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? » Ben, très bien, je vous en prie, asseyez-vous. On vous le présente comme quelqu'un de nerveux, d'irritable, et puis là, tout se passe bien. Ça ne fonctionne pas. La première rencontre avec un personnage, la manière dont il se comporte, c'est à peu près comme ça que le lecteur va l'identifier et va le garder. Donc si vous avez un méchant, commencez tout de suite à le présenter un petit peu méchant, d'une manière ou d'une autre. Un petit peu bizarre, un petit peu décalé. Si vous avez un gaffeur, ben, dès le départ, vous montrez une gaffe. Puisque sinon, on vous le présente et puis il ne se comporte pas tel qu'il est présenté, ça ne marche pas. Et en plus, évitez de dire « lui est un coléreux ». Lui est un gaffeur. Ne dites pas les choses, montrez-les. On veut savoir à quoi ça se voit. Donc plutôt que de dire, voilà, il se passe ceci et la personne est mécontente, vous allez plutôt imaginer un dialogue où la personne va dire, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, j'en ai marre. Pas besoin de dire qu'il n'est pas content, il y a marqué bon sang, j'en ai marre, ça va, ça suffit. Montrez les choses, ne les dites pas. Là, vous enrichissez beaucoup votre histoire. Parce qu'une histoire, c'est ce que l'on... C'est ce que l'on voit et ce n'est pas ce que l'on dit. Imaginez-vous en train de regarder un film. À la limite, essayez d'être le moins possible dans la tête de vos personnages. La personne est triste, pas besoin de dire qu'elle est triste. Montrez-le. Quel serait le geste, la bonne attitude qui pourrait illustrer sa tristesse. Si vous le trouvez en disant « bon, ça va, c'est pas la peine, laisse-moi », et puis il se retourne, écrase une larme peut-être, eh bien ça suffira, on n'a pas besoin de le dire. Hein. Alors, à quoi ça se voit lorsque vous dites quelque chose sur un personnage? Eh bien, pensez toujours à ça. Essayez de voir les images qui se déroulent dans votre tête, comme si vous regardiez un film, et captez-les. Vous décrivez une scène, vous ne la racontez pas. Et c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment un écrivain. Et puis, il va falloir que vous mettiez aussi toutes vos impressions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la vue. Quand on va dans certains endroits, il y a aussi des odeurs, il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, il y a du bruit. Et donc, essayez de mettre toujours les cinq sens. On arrive dans un endroit, ben, vous parlez aussi du bruit, vous parlez aussi des odeurs, vous parlez de la chaleur, du froid, du vent. Il faut que l'on puisse sentir toutes ces choses-là. J'ai entendu récemment quelqu'un, à propos d'un film, ça s'est passé ici, aux Utopiales, de dire que tel film n'était pas réussi parce qu'on voit un paysan, bon ben, la campagne est vraiment très propre, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, c'est superbement filmé, ce sont de belles images, mais on n'a pas l'impression de se retrouver réellement à la campagne. Alors que dans un autre film, on voit quelqu'un qui vient avec ses bottes, rien qu'à la manière de marcher, on comprend que la terre, elle colle aux semelles, et que c'est de la terre meuble, humide, on se sent vraiment à la campagne. Juste une manière de marcher, une attitude. Donc pensez à toujours mettre les cinq sens, la vue, l'ouïe, le bruit, l'odeur. Presque on pourrait avoir, lorsque c'est filmé comme ça, l'odeur du foin, l'odeur d'une étable, alors que c'est simplement filmé. On arrive à se l'imaginer. Et à partir de là, vous avez donc un décor. Ne faites pas de votre histoire un simple échange avec des personnages qui ne seraient que de purs esprits, qui dialoguent. Hein. Il va falloir que vous montriez des endroits. Choisissez-les méticuleusement, ces endroits. Un décor, c'est quelque chose d'important. Vous vous en rendez compte le plus souvent dans certains des films d'action que vous voyez. Lorsqu'il doit y avoir quelque chose d'effrayant, on vous prendra un décor un petit peu lugubre, des pièces mal éclairées. Ou alors, et un orage au loin, on entendra le tonnerre, ça impressionne toujours un peu. En tout cas, on va jouer sur l'ambiance. Le décor a donc une importance. Sachez où vivent vos personnages, et il faut que le décor, évidemment, corresponde à son activité. Si le gars est un cadre dynamique qui voyage beaucoup, bon, ben c'est sûr qu'il ne vit pas dans un HLM. Il va falloir qu'il ait quelque chose en rapport avec sa situation. Et ce décor-là, ben, il va falloir que vous puissiez le voir. Vous parlez d'un hôpital, eh ben, allez un petit peu vous promener dans un hôpital. Ne vous contentez pas de regarder le lit, la chambre, parce que vous avez peut-être déjà rendu visite à quelqu'un dans un hosto, mais essayez de voir les gens qui vont et viennent, regardez l'accueil, comment il est fait, qu'est-ce qui est prévu pour recevoir les gens, où se trouve le parking, tiens, il y a une entrée à part, c'est pour les ambulances. Vous commencez à identifier les lieux, et à ce moment-là, vous pouvez y mettre des personnages dans ces lieux, ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc soignez aussi votre décor. Et à ce moment-là, votre histoire, elle sera aussi beaucoup plus réussie. Et je parlais tout à l'heure de dialogue. Essayez aussi de faire parler vos personnages d'une façon crédible. Un personnage qui est peut-être quelqu'un qui n'a pas une grande carrière, quelqu'un qui a fait quelques petits coups pendables dans sa vie, ne veut pas s'exprimer comme un ministre. N'aura pas un langage forcément châtié. Ces phrases ne seront pas forcément bien construites. Vous avez le droit de torturer la syntaxe du moment qu'il s'agit d'un dialogue. Et puis après, il y aura d'autres personnes, elles parleront différemment. Donc, dans votre dialogue, vous pouvez faire passer plein de choses. Ce que vous ne devez pas faire passer, c'est l'histoire. Imaginons quelqu'un qui essaye d'échapper à une menace, deux ou trois personnes qui essayent d'échapper à une menace. Ils ne vont pas dire « Vite, là-bas, le petit cabanon de l'autre côté du champ, on pourra s'y cacher. » Totalement impossible de dire ça. Vous êtes en train de courir. La personne qui court, elle va dire « Vite, là-bas !» Et vous mettrez dans la description, effectivement, de l'autre côté du champ, se trouvait un petit cabanon dont la porte était entrouverte. Avec un peu d'espoir, ils auraient le temps d'y arriver. Vous êtes obligé de mettre ça dans une description et surtout pas dans le dialogue. Parce que sinon, votre dialogue sonnera faux. Lorsque vous avez des dialogues dans un récit, vous pouvez les tester avec les gens, avec un copain. Chacun lit les répliques de l'autre, ou alors vous le faites vous-même. Vous dites et vous redites la phrase plusieurs fois de suite. À la fin, vous êtes tellement habitué à ce que vous dites que vous le direz d'une autre manière, à votre manière. Et là, vous aurez la vraie manière de parler. Hein. Donc, pensez à ça. Les dialogues, ils doivent être vivants. Et pour qu'ils soient vivants, une fois de plus, il faut coller au plus près de la réalité. Donc, c'est aussi important d'écouter les gens parler. Vous vous rendez compte que les humoristes, les imitateurs, ne se contentent pas d'imiter la voix de la célébrité. Ils imitent la manière de parler, les tics de langage. Les gens ont des tics de langage. On peut repérer ces tics de langage. Et à ce moment-là, votre personnage aura beaucoup plus d'épaisseur. Il commencera à réellement exister. Alors voilà, ça, ce sont encore des petits trucs, des petites techniques. Lorsqu'il y a quelque chose de merveilleux aussi, bon ben, ne dites pas « Oh, c'est merveilleux ». Une fois de plus, montrez comment les choses peuvent être belles. Faites parler le personnage en fonction de ça. Ce n'est pas le personnage qui va décrire ce qu'il voit. Le personnage, il va simplement dire « Waouh, c'est génial !» Point final. Ce qu'il voit, eh bien, vous le mettrez dans la description. On ne va pas parler de la gestion du temps. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Je crois que j'arrête un moment là et je vous laisse poser des questions, si vous voulez, des précisions sur les dialogues, les personnages ou sur la manière d'écrire un scénario. Il n'y a pas de questions ? Il y a un micro qui se balade dans la salle ? Pas de questions, vraiment. Vous êtes tous assurés de pouvoir écrire une histoire avec ça ? Bon, je vais continuer à donner alors quelques petits conseils d'écriture. Sur les dialogues, pour reprendre cet exemple-là, comment vous pouvez vous y prendre pour faire parler quelqu'un que vous ne connaissez pas leur vie, ben une fois de plus, vous êtes obligé d'aller vous documenter. Sur les décors, je l'ai dit, vous devriez aller vous documenter aussi en allant regarder, par exemple un hôpital, c'est l'exemple que j'ai pris, en allant regarder comment les gens se comportent et peut-être en allant regarder une encyclopédie, un livre, Internet. Vous avez Internet à votre disposition, c'est un outil qui est formidable pour se documenter. Moi, maintenant, j'ai nettement moins peur de me transporter dans un autre pays, dans une autre société, puisque avant, je me méfiais de ce que je ne connais pas. Je me rappelle du conseil de Franquin, parle d'abord de ce que tu connais, parce que sinon, on verra bien que tu n'y arriveras pas. Et avec la documentation que m'offre Internet, je peux très bien maintenant aller en Russie, aller dans des endroits où je n'ai jamais mis les pieds, et les décrire comme si j'avais voyagé. Pensez à Jules Verne, qui lui au départ s'était engagé comme mousse parce qu'il voulait découvrir le monde. Ses parents l'ont récupéré au tout dernier moment et lui ont dit « il n'est pas question que tu t'en ailles comme ça ». Il avait fait ça vers 15 ans et il avait fait la promesse de ne plus jamais voyager autrement qu'en rêve. Et Jules Verne, c'est surtout aventure et voyage. Il a raconté des histoires qui se passent un petit peu partout à travers le monde. Bon, après tout, il a quand même voyagé après, hein. Mais pendant longtemps, il s'est contenté de voyager à travers les livres qu'il regardait à la bibliothèque, à Nantes, justement. Et puis ensuite, l'après-midi, il écrivait chez lui. Donc, vous avez beaucoup plus qu'une simple bibliothèque. Vous avez le monde entier devant votre écran. Allez-y, compulsez. À partir de Google, vous pourrez avoir un certain nombre de réponses. Si je dois me rendre dans un endroit, un paysage, maintenant, je vais prendre... Il y a même Google Street qui me permet de regarder les rues et de voir à quoi ça ressemble. Pour ce qui est du passé, il y a plein de photos d'archives que l'on peut trouver. Avec un petit peu de patience, on arrive à chercher tous les renseignements nécessaires. Je me sers, moi aussi, des agences de voyage. Vous connaissez les tarifs, vous savez qu'il y a une douane et qu'il y a une taxe à payer. Donc vous pouvez y envoyer votre personne et imaginer un petit problème là, parce qu'on dit attention. Vous savez qu'il faut être vacciné contre telle ou telle maladie. Tiens, voilà un détail qui peut être intéressant, qui pourra faire un petit rebondissement dans votre récit. Et puis, vous avez aussi beaucoup de blogs, des gens qui racontent leur voyage. J'étais au Pérou, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une expédition en Afrique, un safari photo, c'était extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Le soir, nous sommes allés en boîte de nuit. Tiens, ça m'intéresse parce que le safari photo, on sait très bien, on peut décrire un rhinocéros, une girafe, un lion, mais de savoir quelle est la vie là-bas et que la personne qui, le soir, dans un petit village, va passer une soirée dans un bar, dans une boîte de nuit, ça ne sera pas comme ici. Et là, il y a tout d'un coup les personnes qui vous racontent ce qui s'est passé, les mésaventures qui leur sont arrivées. Ces mésaventures vous en disent beaucoup plus sur la manière dont la société fonctionne à cet endroit-là, sur la manière de vivre, et à partir de là, vous pouvez mieux comprendre le monde dans lequel vous entraînez vos personnages, et vous pouvez beaucoup mieux le décrire, le restituer. À chaque fois que je dois me promener donc à travers le monde, moi je commence par faire une recherche pour aller trouver le bon endroit aussi, chercher le bon endroit, le bon coin, le bon paysage. Vous avez Google Earth, vous avez Google Street maintenant. Vous savez qu'il est même question bientôt d'avoir toute l'Amazonie et d'avoir tous les endroits où les véhicules de Google Street ne passent pas. On est en train de d'équiper des radeaux, des canaux d'Indiens d'Amazonie, de cet appareil photographique à 360 degrés pour qu'il puisse faire tous les cours de l'Amazon et pour que l'on puisse après se promener dans la forêt amazonienne comme si on y était. Là, à ce moment-là, il y aura peut-être plus d'écrivains de science-fiction qui raconteront des histoires qui se passeront au cœur de l'enfer vert, comme on l'appelait auparavant, en Amazonie, parce qu'on pourra voir ça. On pourra peut-être aussi mieux voir les dégâts, les effets de la déforestation à partir de là. Ça sera intéressant. Mais donc, n'hésitez pas à vous documenter, parce que sinon, votre histoire sera moins bonne. Il faut arriver à être crédible. Et c'est là qu'en cours de route, vous avez beau faire un plan, vous vous rendez compte que l'histoire ne peut pas se dérouler telle que vous l'aviez prévue, parce que forcément, à un moment ou à un autre, il y avait une documentation que vous n'aviez pas au début de votre histoire et qui vient empêcher que les choses se passent comme prévu. Il arrive aussi que dans la documentation, vous trouviez un petit détail qui est tellement intéressant que vous êtes obligé, que vous vous dites « je vais modifier mon histoire parce que là, ça va être très fort, ça va fonctionner ». Alors là, votre plan, c'est là que vous voyez qu'il est utile. Vous ne le suivez pas jamais jusqu'au bout. C'est très rare les gens qui, une fois qu'ils ont écrit leur plan et qui savent ce qui va se passer chapitre après chapitre, va respecter cette trame-là. Par contre, ce plan dressé vous aide à vous y retrouver. La documentation en cours de route, une personne qui est tombée malade justement dans un pays étranger, chikungunya, comment ça soigne, un médicament, ah oui, lequel, est-ce qu'on peut le trouver? Ça va un petit peu modifier l'histoire. Vous vous éloignez de votre histoire initiale par rapport à votre ligne. Et votre effort sera de pouvoir y revenir à chaque fois. Mais puisque vous avez un axe qui a été fixé, vous savez que vous vous éloignez et puis vous savez que vers où vous devez revenir. Si jamais vous vous éloignez trop, bon ben alors là, vous avez un gros problème. Il va vous falloir vous arrêter et puis recommencer à faire un plan pour être sûr de retrouver une conclusion. Ça peut arriver. Mais il faut quand même que tout ceci soit en rapport avec le début de l'histoire. Il arrive que dans certains romans, on ait une intrigue, quelque chose, et puis à la page 100, tout d'un coup, on sent que l'auteur vient de retrouver son histoire et puis part sur cette histoire-là. À mon avis, comme il s'est trompé, il aurait dû couper les 100 premières pages ou les modifier de manière à ne vraiment raconter que cette histoire. Toujours pas de questions. Alors, la documentation, il faut aussi la livrer au bon moment. N'en profitez pas pour recopier des passages entiers de Wikipédia et pour les mettre dans vos paragraphes, description de votre montagne. Ça se faisait peut-être avant, c'était un petit peu pénible. Il va falloir l'injecter d'une manière raisonnée. Il faut que l'information arrive au bon moment, lorsque le lecteur en a besoin. Il ne faut pas que ce soit dit avant, en disant, bon, ben, on va dans tel pays, alors le tel pays, il y a tant d'habitants, il y a tant de langues qui sont parlées, le président, c'est un tel. Non, on n'allait pas mettre ça. Si on a besoin de savoir le nom du président, on le mettra en cours de route au moment où on en a besoin. C'est surtout essentiel lorsque vous racontez de la science-fiction, lorsque vous faites des choses scientifiques, ou dans n'importe quelle histoire de science-fiction, c'est que le monde au départ ne vous est pas donné. Vous prenez, disons, une histoire policière où quelqu'un allume sa clope avec un briquet et prend la zapette pour changer de chaîne en regardant son écran. Une fois que vous avez dit ça, tout le monde comprend. Si c'était une histoire de science-fiction, vous seriez obligé d'expliquer que le personnage prend une cigarette, c'est-à-dire du tabac qui est coupé en petits brins de feuilles séchées, qui sont mises dans un papier enroulé comme ça, qu'il a un appareil qui permet de faire du feu parce qu'il y a un gaz qui s'enflamme au contact d'une étincelle et que tant qu'il garde le doigt sur la molette, la flamme reste et qu'ensuite il va inhaler la fumée dégagée par les brins d'herbe qui ont été ainsi allumés, ce qui n'est pas très bon pour la santé mais procure un certain plaisir. Que ce qu'il voit sur la télévision, au départ était à 620 lignes, est retransmis par des satellites, et c'est ce que l'on peut voir à l'autre bout du monde, qu'il y a ainsi plusieurs canaux qui arrivent dans un écran de télévision, et qu'il y a une zapette qui permet de changer de canal pour voir ça. Vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes obligé de raconter parce que vous ne connaissez pas le monde. Alors imaginez ça lorsque vous êtes sur une autre planète avec des extraterrestres qui ont des manières de se comporter que vous ne comprenez absolument pas. Vous êtes obligé de dire, bon ben, à quoi sert cet appareil, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment on va faire pour expliquer tout ça? Eh bien, il va falloir chaque fois trouver une petite situation qui vous permettra de comprendre à quoi sert un appareil, par exemple. Montrez-le en train de l'utiliser. Et là, on peut comprendre, ah oui, là, on peut le déduire. On pourra voir un personnage s'exprimer et la personne réagir et se tromper. Et après, on va lui dire, non, non, c'était ça. Il faut toujours trouver la petite scène qui permet de comprendre ça. Et à ce moment-là, vous expliquez, au moment où l'appareil est présenté, au moment où l'extraterrestre se met à parler, vous expliquez les codes de sa société, vous expliquez à quoi ça sert. Vous délivrez l'information au fur et à mesure où le lecteur en a besoin. Et vous ne l'expliquez pas forcément tel quel, vous n'arrêtez pas l'histoire pour l'expliquer, vous le mettez à travers un dialogue, à travers une scène. Vous pouvez vous servir du naïf, vous vous rendez compte que très souvent dans les histoires, il y a un naïf qui dit « mais qu'est-ce qui se passe là, je ne comprends pas ?» Et l'autre lui explique. C'est un bon moyen justement de faire passer votre explication sans arrêter le récit. Ce naïf peut être un maladroit qui fait les choses de travers, et on lui dit « non, si tu fais ça, ça va avoir telle ou telle conséquence. » C'est comme ça que vous êtes en train d'expliquer le fonctionnement d'un appareil et de ce qui se passe si on l'utilise mal. Plutôt que de dire à quoi il sert et comment il fonctionne, le fait de se tromper dans son utilisation permet de montrer une petite panne, un dysfonctionnement, et donc vous fait passer l'information d'une manière qui fonctionne bien. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à avoir à l'esprit lorsqu'on est auteur. Mais c'est justement pour cela qu'avec un plan et puis avec des notes sur chaque partie de votre récit, la partie qui peut être scientifique lorsque vous écrivez de la science-fiction, la partie qui concerne vos personnages, leur biographie donc, ce qu'ils ont vécu, leur caractère, vous avez vos petites fiches pour être sûr de ne pas vous y perdre, pour vous retrouver le plus facilement possible, et à partir de là, vous pouvez raconter votre histoire. Enfin, le mieux est déjà de commencer par des histoires courtes, parce que le chemin est plus court pour arriver à la fin, et là, vous pouvez tester différentes choses. Votre histoire est ratée, c'est pas grave, si vous savez pourquoi vous l'avez ratée. Les erreurs, c'est bien, les erreurs, c'est ce qui permet de progresser. Lorsque vous avez réussi du premier coup quelque chose, et vous savez pas pourquoi on l'a réussi, souvent, par exemple, les scientifiques sont très embêtés, il y a quelque chose qui fonctionne, on continue à s'en servir parce que ça marche, mais on sait pas comment ni pourquoi, c'est quand même embêtant. Parce que lorsqu'on voudra le rééditer, ben on ne sait pas qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne. Donc une erreur, du moment que vous avez identifié votre erreur, eh ben vous êtes capable de la corriger, c'est génial, vous avez appris quelque chose. Hein. C'est bien d'arriver à se tromper et de savoir pourquoi. Bon, ben, il est peut-être temps de faire une petite pause avant l'intervention suivante, à moins qu'il y ait toujours une question ou une autre. Oui. J'entends absolument rien.
À quel âge avez-vous commencé à écrire la science-fiction ?
D'accord. Je ne sais pas à quel âge j'ai commencé à écrire la science-fiction, je sais à quel âge j'ai commencé à écrire. Comme le disait tout à l'heure Daniel, à notre époque, on n'avait pas la télévision partout. Donc, effectivement, je m'ennuyais un petit peu chez moi. Les parents ne voulaient pas, même après qu'il y ait de la télévision, en disant « bon, ben, on ne fera rien ». On ne travaillerait plus le soir, on ne ferait plus les devoirs, on serait devant la télé. Donc, j'avais pas envie de m'amuser avec mes frangins à pousser des bagnoles ou à jouer, je sais pas, moi, aux Indiens et aux cow-boys. Je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Et comme je m'ennuyais, je lisais. J'ai surtout eu de la chance pour lire des histoires d'aventure parce que mon père, à un moment, était représentant des disques festivals et que cette marque de disques avait adapté les romans et les bandes dessinées d'aventure sur des disques. On avait donc l'histoire sonore. Ce qui fait que j'ai d'abord écouté Voyage au centre de la Terre, enfin les Jules Verne, avant de pouvoir les lire. J'ai écouté comme ça les aventures d'Astérix, Blake et Mortimer, qui sont certainement des BD que vous connaissez. Il y avait Tanguy et la Verdure, il y avait Michel Vaillant. Donc tout ça, je les écoutais. Et ensuite, j'ai appris qu'il y avait des BD. Au départ, je ne savais même pas que ça venait de là. J'ai dit, tiens, ils en ont fait aussi des BD. Et à partir de là, ben, évidemment, j'avais envie de lire ça. Et lorsque j'avais fini de lire tout ce qu'il y avait pour mon âge à la maison, et que mes parents ne voulaient pas me donner d'argent pour acheter des bouquins, qu'à la bibliothèque, il n'y avait pas toujours tout ce que je voulais, eh bien, je me suis mis à écrire les histoires que j'aurais aimé lire. Par moments aussi, quand j'étais adolescent, on m'a prêté des livres, je ne pouvais pas me les payer, ou même le livre était épuisé, on ne le trouvait plus. Je voulais vraiment garder cette histoire. Quand j'aime vraiment un livre, je veux le garder, je ne veux pas le savoir qu'il est à la bibliothèque et le reprendre. Tout d'un coup, on va à la bibliothèque et puis il n'y est plus, il est emprunté, ou bien il est tellement abîmé qu'il n'est plus disponible auprès. Et comme il n'est pas réédité, on ne l'a plus. Moi, j'aime bien avoir le livre chez moi et puis pouvoir le retrouver, l'ouvrir à une page, retrouver un passage. Alors à ce moment-là, ben, je me suis mis à copier les livres que je ne pouvais pas m'acheter. Voilà, 10 pages par soir. Ça va, on y arrive. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup comme ça, hein, parce que quand même, c'est fatigant. Mais en même temps, vous voyez comment l'autre, il écrit. Vous êtes en train d'écrire comme lui. Le temps que vous passez à recopier la phrase, vous êtes en train de l'élaborer. Alors, ben, moi, tout petit, j'ai commencé à 8 ans à écrire des histoires. Je mettais sur la porte de ma chambre, ne pas déranger l'écrivain de travail. Je me voyais déjà écrivain. Puis évidemment, mes histoires n'étaient pas très intéressantes, je suppose. Et puis, elles venaient beaucoup de mes lectures. Il y a un personnage de bande dessinée, de dessin animé que vous connaissez peut-être, qui est Bob Moran, qui était déjà un héros d'aventure à mon époque, sous forme de roman. Et Bob Moran avait un ennemi qui était l'ombre jaune, une sorte d'asiatique qui était immortel. Chaque fois qu'on le tuait, il pouvait ressusciter à l'autre bout du globe. Je trouvais ça génial. Donc c'est là où ces histoires de Bob Moran de science-fiction m'intéressaient davantage que les histoires policières. Donc là, j'ai eu un premier goût pour la science-fiction. Et mon héros se battait contre l'ombre noire, vous voyez, l'originalité, on changeait la couleur. Mais bon, ça fait rien, je commençais à écrire des histoires, et à partir de là, j'ai pris l'habitude de savoir bâtir une intrigue. À partir de là aussi, j'ai découvert deux revues qui s'appelaient Fiction et Galaxie, et j'ai découvert des mondes nouveaux, d'autres planètes, j'ai découvert des voyages à travers le temps, j'ai découvert des produits révolutionnaires qui changeaient une société, la télépathie, des choses comme ça, et j'ai vu que ces histoires-là, vraiment, elles me plaisaient beaucoup. Donc, c'est comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. À partir de là, j'ai commencé à ne lire surtout que ça, et je n'avais pas tellement envie de lire autre chose, et je me suis dit, un jour, j'écrirai ces histoires. Voilà. Finalement, on y arrive. C'est long, mais on y arrive. Après, l'effort que vous devez faire, c'est de trouver un éditeur. Mais ça, c'est que dans un premier temps. Maintenant, vous avez des blogs qui vous permettent de laisser vos histoires. À mon époque, il y avait plutôt ce qu'on appelait des fanzines. Donc un fanzine, c'est un magazine édité par des fans fanatiques. Et beaucoup d'auteurs, qui sont d'ailleurs qui étaient ici ces jours-ci, ont commencé dans des fanzines. Ils ont produit leurs premières histoires. C'est-à-dire qu'il y a déjà un premier filtre, des premiers lecteurs qui vont dire « Ton histoire, elle est bien, elle est racontée trop vite, ou bien la fin n'est pas très claire, j'ai pas tout compris. » Il y a des gens qui sont en train de donner des conseils et qui permettent de s'améliorer avant de faire le grand saut vers l'édition professionnelle. Et on a donc, c'est un galop d'essai, on a encore le droit de se tromper, ce ne sont pas des histoires bien réussies, mais dedans, on peut déjà repérer dans ces magazines-là des futurs talents, parce qu'il y a un ton, une manière d'écrire qui est intéressante. Alors aujourd'hui, les fanzines, il y en a très peu, il en existe encore, mais vous avez surtout des blogs où vous pouvez laisser votre histoire à tel ou tel endroit, ou vous faites votre propre blog et vous allez... le faire connaître en disant, voilà, on peut lire mes histoires là. Et vous avez un retour de lecteur, j'ai bien aimé ton histoire, là j'ai pas tout compris. C'est là que vous vous rendez compte, lorsque quelqu'un dit j'ai pas compris ou j'ai pas aimé ce que tu as raconté, que dit oui, mais c'est que dans l'histoire il se passe aussi ceci, cela, c'est-à-dire il y a plein de choses que vous n'avez pas écrites, que vous n'avez pas écrites dans votre récit. Et là, ben, il est un peu tard pour dire, ben voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. Faites attention à ne rien oublier de votre histoire. Lorsque vous avez un retour de lecteur qui n'a pas tout compris, c'est que votre histoire a un petit défaut. Vous y êtes mal pris, vous ne l'avez pas assez mis en évidence aussi. Ça dépend aussi du lecteur que vous visez. Mais une fois que vous avez fait ces premiers récits, vous avez un premier contact avec le lecteur, vous pouvez justement vous améliorer et ensuite envoyer un manuscrit à un éditeur qui sera lu. Ça prend un certain temps, hein, comptez 6 mois à peu près. Et à partir de là, on vous fera aussi faire quelques corrections et quelques remaniements, et après même vous recevrez une correctrice qui vous enverra les épreuves, vous faites votre dernière lecture pour une publication. Voilà, d'autres questions? Oui. Il est temps de s'arrêter, allez. Merci.